Et voici venue l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, qui nous sort de notre quotidien, qui nous emmène au Népal découvrir une éducation intégrale.
LEM, l'émission, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Magazine LEM, avec de vrais morceaux de Finistère dedans, mais avec des Finistériens et des Finistériennes qui voyagent de par le monde. C'est le cas de notre invitée du jour. Elle est partie au Népal. C'était une quête personnelle, mais aussi une aventure collective et éducative. Il sera beaucoup question d'éducation dans cette émission, car notre invitée a déjà été éducatrice spécialisée pendant 20 ans. Et puis, elle nous dira pourquoi elle s'en est allée voyager de l'autre côté du globe, à la découverte d'autres modèles éducatifs. C'était fin 2025, ça a duré 3 mois, et la voici donc de retour depuis fin décembre. Anaïg Louboutin va nous raconter tout ça. Bonjour.
Bonjour.
Alors expliquez-nous déjà qui vous êtes, pourquoi ce prisme voyageur, pourquoi le Népal Allez-y.
Déjà, je crois que je suis voyageuse depuis longtemps. Ça fait partie de mon équilibre. Et en fait, le Népal, le Tibet, c'est la Mongolie, tout ça, l'Asie, c'est un rêve de longue date. Donc je me suis déjà rendue en Inde plusieurs fois, mais là, le Népal, c'était une occasion qui n'était pas prévue. C'est un mail que j'ai reçu dans ma boîte en octobre 2024, alors que je revenais du Québec.
Oui, oui.
Un autre voyage. Et en fait, c'était une personne de mon réseau, une art thérapeute, qui proposait en fait un voyage au Népal, mais un petit peu différent. Elle parlait d'une immersion en tribu éducative. Alors, ça m'a parlé. Les deux mots m'ont parlé, à la fois le mot tribu, qui pour moi faisait lien au collectif, mais avec un sens un petit peu différent de celui qu'on entend habituellement, et éducatif, puisqu'effectivement, il était question de partir avec des familles, donc des parents et des enfants. Et effectivement, on est un groupe d'une quinzaine de familles à s'être constituées, donc des Français et des Belges. Et on a eu une année pour préparer ce voyage plus ou moins à distance. Merci Zoom.
Ouais, c'est vrai que c'est pratique, il faut reconnaître.
Voilà. Et donc, c'était un peu le...
Donc, c'était pas un voyage organisé, c'est ça qui est intéressant. Quoi. C'était organisé par vous-même, quoi, en fait.
Enfin... Oui, c'est ça. C'était un petit peu de façon autogérée, en fait.
Et vous, Anaïg, vous êtes partie en famille ou toute seule?
Alors, moi, je n'ai pas d'enfant. Donc, en fait, j'étais quasiment la seule à être dans cette situation. Mais du coup, ma question a été tout de suite, est-ce que vous m'accepteriez? Dans le sens où, par contre, moi, je me vois tout à fait prendre en charge certains de vos enfants à des moments, s'il y a un besoin. Et justement, ce qui était intéressant, c'est que dans ce groupe, les personnes étaient plutôt ouvertes à ce genre de propositions. Au contraire, elles étaient plutôt à pratiquer déjà pour certaines l'unschooling, l'école à la maison.
On a fait plusieurs émissions sur ça, oui.
Voilà, donc en fait, c'était des personnes qui étaient ouvertes à ça, en recherche, d'autres plutôt dans des systèmes d'éducation alternative. Voilà.
Donc, et le fait que vous ayez été éducatrice spécialisée, j'imagine que c'était aussi un bonus.
Oui, effectivement, j'ai un peu mis ça en avant. Et puis, en fait, pour moi, l'éducation, c'est un domaine central, en fait.
Ouais.
De tous mes voyages, c'est ce que je retiendrai, en fait, que ça commence là, en fait.
Ah oui, dans vos autres voyages, vous avez étudié particulièrement, ou pratiqué l'éducation dans d'autres pays, d'autres continents?
Pas forcément, mais par exemple, j'ai vécu un an en République démocratique du Congo dans le cadre d'un volontariat de solidarité internationale. Ça date maintenant, c'était de 2009-2010. Mais donc là, le but, c'était vraiment de mettre mes compétences au service d'un projet local. Donc c'est ça que je trouvais vraiment intéressant. Mais il y avait vraiment aussi une bonne partie en lien avec l'éducation, construire des supports pédagogiques, animer le côté local à la radio et ainsi de suite. Donc c'était, l'éducation était vraiment au cœur.
Et c'était plutôt quand vous pratiquiez votre métier d'éducatrice spécialisée, c'était plutôt des enfants, des adolescents, votre public ou pas, il n'y avait pas de dominante?
Alors j'ai fait ça pendant presque 20 ans, j'ai fait beaucoup de remplacements, donc j'ai eu l'occasion d'expérimenter différentes structures et différents âges, différents publics, mais quand même j'ai beaucoup été en présence de personnes en lien avec un handicap psychique. Dans des IME, Institut médico-éducatif. Donc, il y avait une variété, on va dire, de profils, mais quand même plutôt handicap mental. Voilà. Et ça m'a passionnée. Enfin, je trouve que...
Oui. Et puis là, vraiment, il y a une réflexion. Enfin, la réflexion sur l'éducation est encore plus importante. Enfin, sur la méthode éducative, encore plus importante quand c'est un public comme ça... empêché, pourrait-on dire, ou en tout cas différent, quoi.
Ben oui, et c'est de là que j'ai commencé effectivement à m'intéresser déjà aux méthodes un petit peu alternatives, parce que pour moi, en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà du handicap, de partir de la personne, en fait, et de voir, eh ben, là où elle en est, ben, voilà, comment on peut avancer, en fait, ensemble. Et donc, voilà, et donc c'est transversal, en fait, ça se retrouve partout, avec des adolescents, avec des adultes, quelle que soit la déficience. Voilà, donc ça c'est... Et c'est ce que j'ai retrouvé aussi au Népal, en fait. C'est ce qu'on retrouve en voyage, en fait. C'est beaucoup... on est dans l'instant présent. Et justement, moi, ce qui m'a plu là-bas, c'est que vraiment, ça m'a déconnectée de, bah, effectivement, de l'Occident, de l'Europe et tout ça, où on est toujours dans l'anticipation, la prévision...
Planification.
Exactement.
Et là... Enfin, ça dépend pourquoi, ceci dit. Mais oui, je vois ce que vous voulez dire, ouais. Les méthodes économiques,
ben,
on
oui,
va dire.
C'est ça. Et en fait, là-bas, on se rend compte que ça marche pas très bien, ça. Même si, bien sûr, que ça existe, puisque voilà, pour voir ce qu'on a vu depuis 30 ans, voilà, la personne qui est... alors, je vais l'appeler le gourou, parce qu'en fait, c'est un homme qui, depuis 30 ans, a mis vraiment sa vie au service d'enfants défavorisés. Donc, il y a une association qui a été créée et il a fondé 3 ashrams. Donc, ce sont des lieux éducatifs, mais avec qui pourraient vraiment correspondre à des centres sociaux chez nous, pour si on pouvait faire une comparaison, mais avec un côté spirituel en plus, dans le sens où les enfants reçoivent justement ce qu'ils appellent une éducation intégrale, c'est-à-dire à la fois des leçons scolaires, mais aussi ils ont de la méditation, du yoga dans leur emploi du temps. Donc, le corps est vraiment dans toutes ses dimensions est considéré. Dans les plus physiques comme dans les plus subtils, on va dire. Il y a aussi une grande place qui est donnée aux disciplines artistiques. Ils sont tous quasiment chanteurs, danseurs, ils pratiquent la musique. Voilà, tous les soirs, quasiment, il y avait des activités où on était conviés. Et c'est vraiment très joyeux. Et ça, le collectif, il a une force, en fait.
Oui. Et bon, on va revenir sur tout ce que ces méthodes éducatives. Juste pour terminer sur vos motivations. Enfin, vous disiez l'Asie centrale, c'était un rêve. Mais pourquoi ? Enfin, c'est parce que vous pratiquiez déjà le yoga ou non ?
Alors, oui, bah, j'avoue que l'Orient m'inspire beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup les environnements calmes, paisibles. Donc oui, je pratique la méditation depuis de longues années. J'ai moi-même fait du yoga, du tai chi, du qigong. J'ai commencé à apprendre le japonais, j'avais 17 ans.
Bravo, donc, t'es courageux.
Fait, ben oui, en fait, j'étais pas déjà intéressée par ces sigles-là qui étaient des petits dessins, parce que donc, moi, je suis artiste.
Oui.
Donc, du coup, tout ce qui est couleur, enfin voilà, tout ce qui est symbole, ça m'intéresse. Et donc, déjà, très tôt, finalement, ça m'intriguait déjà. Donc, j'ai une reliance au Japon et à la Chine qui est vraiment naturelle. Je me suis formée en feng shui, en médecine chinoise. Donc, voilà, tout ça, ça a nourri mon parcours. Et c'est une grille de lecture que j'utilise encore au quotidien, qui fait partie de moi. Parce que, tout simplement, ce que j'ai trouvé dans ces philosophies, c'est qu'ils ont un fort lien à la nature. Et que, par exemple, en médecine chinoise, ils expliquent ce qui se passe dans le corps par aussi des métaphores qu'on peut retrouver dans la nature. Ils parlent de climat, par exemple, dans le corps, de la sécheresse, de l'humidité. Donc, c'est des choses très simples, en fait, que tout le monde peut comprendre. Et moi, qui m'ont parlé tout de suite, en fait.
Oui, oui, tout à fait. C'est une forme de vulgarisation assez concrète. Et donc, alors, vous êtes allé... donc, le voyage a été préparé pendant un an. Vous êtes parti, vous étiez combien dans votre tribu belge-française ?
Et bah du coup, on s'était pas forcément... Certains Belges s'étaient retrouvés avant. Et en fait, moi, j'ai rencontré les premiers membres de la tribu, donc à Paris, à l'aéroport. Donc ça, c'était chouette aussi de se retrouver progressivement. Donc il y avait 15 adultes et une quinzaine d'enfants.
Donc septembre, octobre, novembre, c'est ça ?
Décembre. Donc 3 mois. Alors, selon les situations, les familles, enfin certaines sont venues 1 mois, d'autres jusqu'à 3 mois. La plupart jusqu'à 3 mois.
Et vous, 3 mois ?
Et moi, 3 mois, oui.
Et pourquoi cette période-là ? Enfin, il y a une raison particulière ? C'est parce que c'est un début d'année scolaire ou non ?
Alors effectivement, il y avait un choix au niveau des dates parce qu'on, en fait, mi-septembre, c'est juste après la mousson. Donc, en fait, voilà, la saison humide, on a eu une fin de mousson. Mais du coup, en fait, c'est là où le climat se réchauffe. Donc, pour eux, c'est vraiment la saison touristique. où il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des treks au Népal et tout ça, parce qu'on a eu quand même 20, 30, 35 degrés même.
Oui, quand même.
mois de novembre, moi j'ai trouvé ça plutôt très sympa.
Faut aimer, mais voilà, il en faut pour tous les goûts.
Voilà, et donc après, ça commence quand même à se refroidir en novembre, où là, en fait, les débuts de journée et les fins de journée, on est avec nos doudounes, puisque les bâtiments ne sont pas forcément chauffés. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les écoles, les enfants avoir école dehors, parce qu'il fait plus chaud dehors que dans les bâtiments, à cause de l'humidité.
On peut connaître ça un peu en Bretagne, je crois.
Oui, voilà.
Mais oui, c'est pas totalement exotique pour nous, ça.
Parce qu'on est en montagne, quoi. Faut pas oublier.
Oui, c'est ça aussi.
On est en montagne, oui. Et donc quand le soleil disparaît derrière la montagne, bah, il commence à faire froid.
Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas le même cadre naturel d'environnement, en tout cas. Donc, vous étiez pas vraiment en ville, alors un ashram, j'imagine que c'est un peu plutôt à la campagne, enfin non.
Notre arrivée, donc c'était à Katmandou. Donc Katmandou, c'est quand même la capitale du Népal, mais on était en fait à une heure de Katmandou. Donc c'est vrai que comme en plus l'ashram avait acquis des terres en fait où ils font des plantations, bah, c'est assez vert en fait. C'est pas que, enfin il y a vraiment de la nature. On peut tirer les mauvaises herbes à la pause si on a le temps. Enfin voilà, c'est concret quoi. Il y a des vaches même à Katmandou. Donc
oui. Donc cet ashram, enfin un ashram pour nous donner une idée. Donc c'est une, on pourrait comparer ça à une sorte de monastère. Enfin c'est la religion, c'est une religion, la religion bouddhiste ou pas spécialement?
Eh ben pas spécialement en fait. J'ai découvert justement que au Népal on dit bah c'est le lieu où Bouddha est né en fait, hein, Lumbini, c'est là-bas qu'il est né, mais en fait la majorité est hindouiste, donc effectivement on sent qu'il y a beaucoup de pratiques encore hindouistes, mais en fait moi j'étais dans un ashram qui faisait référence aux enseignements de Sri Aurobindo. Donc c'est un maître spirituel indien et la personne donc, qui a créé cet ashram a suivi des enseignements là-bas et donc il a voulu ramener au Népal dans son pays pour les enfants de son pays tout ce qu'il avait compris de la vie, du corps humain, de sa reliance à la nature. Il a essayé de le ramener, de le mettre à profit de ce qu'il voyait autour de lui et qui lui crevait le cœur en fait.
Ouais, donc on peut pas vraiment parler de religion parce qu'au sens où il n'y a pas référence à des dieux et des déesses, c'est ça, mais plutôt une spiritualité, une philosophie, une sagesse de vie, enfin, c'est ça un peu...
Pour moi, en fait, c'est vrai que le gourou, c'est plus... Alors, c'est vrai qu'il y a eu un film, il n'y a pas très longtemps là-dessus.
Ça n'a pas bonne presse, le mot gourou chez nous.
Ce mot-là, mais en fait, pour moi, c'est juste... Ça veut dire maître enseignant, en fait. Et pour avoir assisté à... Donc, les enfants ont régulièrement des enseignements. Le soir, c'est un peu comme des causeries, comme on pouvait avoir chez nous avant, avec peut-être les grands-parents autour du feu, où ils nous racontaient des histoires. Ça avait vraiment ce goût-là, en fait, d'une ambiance où ils partageaient à la fois des textes philosophiques, effectivement, écrits par des maîtres qui l'ont précédé, et en même temps des anecdotes très concrètes de sa vie, très, très, du vécu, vraiment, avec beaucoup d'humour. Il parlait trois langues, français, anglais, népalais, enfin,
mais il est âgé alors
Oui, une soixantaine d'années.
Ah bon, ça va encore.
Oui, mais il vient régulièrement en Europe, donc il connaît aussi très bien l'Europe et il a une vie assez incroyable. Enfin, moi je trouve que c'est toujours inspirant de rencontrer des personnes comme ça.
Et donc c'est lui qui a fondé le centre social dont vous parlez, l'association. Enfin, je sais pas comment on peut dire exactement où vous étiez.
Oui, il a commencé par une première maison effectivement à Katmandou avec des membres de sa famille au début. Et en fait, petit à petit, il s'est agrandi. Il a acheté des terre. Et surtout, quand on voit son œuvre de bâtisseur, c'est assez impressionnant. En fait, c'est quelqu'un qui est à la fois visionnaire, donc qui a des projets pour dans 30 ans encore, et qui a cette capacité vraiment de mettre ses visions dans la matière et au service du collectif. Donc effectivement, pour construire les bâtiments qu'il a construits, qui ressemblent à des immeubles, à des écoles, enfin vraiment avec des beaux matériaux, il ne lésine pas sur les moyens. Ils ont tout un espace boulangerie. C'est des choses qu'on pourrait voir ici. C'est du matériel professionnel. Donc vraiment, c'était assez impressionnant en fait. Il y a à la fois cette simplicité, mais en même temps, comme ils doivent nourrir 200 personnes au quotidien, il faut du matériel quoi. Et donc ils ont des aides de l'extérieur, il a des mécènes en fait, et ils ont aussi tout un système d'activités génératrices de revenus. Donc moi c'est pour ça que c'était un choix intéressant, je trouvais, d'aller dans un ashram pour à la fois, donc c'était un peu comme une sorte d'hôtel, mais tout en étant en complète immersion. Puisque là, en fait, la différence entre un ashram et un hôtel, on va dire, traditionnel, ce serait que là, on mange en communauté. Voilà, donc tout le monde mange en même temps, il y a un temps de silence avant le repas, voilà, par exemple.
Et on peut suivre l'enseignement si on comprend la langue ?
Oui, effectivement, on est invité à aller le soir voilà, aux activités, que ce soit pour écouter effectivement, l'enseignement du jour ou alors chanter avec les enfants, voilà, effectivement. Mais il n'y a aucune obligation, chacun fait ce qu'il veut.
Et donc vous disiez, c'est un centre social, donc qui est le public, enfin, c'est pour quels enfants ces centres, ces ashrams ?
Donc là, les enfants qui sont accueillis donc, à la fois à Katmandou et dans les deux autres endroits, donc dans deux autres villes du pays, ce sont des enfants donc, défavorisés qui ont vécu souvent des maltraitances, soit qu'ils étaient complètement délaissés par leur famille pour des causes de violence ou des problématiques d'alcool aussi. Et donc, soit adressés par un membre de leur famille, un oncle, une tante, ou alors eux-mêmes, ils se présentent à l'ashram. Et en fait, certains vraiment arrivent très tôt, à l'âge de 1 an, 2 ans. On avait aussi des mamans, par exemple, certaines cuisinières qui travaillaient là-bas, donc étaient des femmes victimes de violences conjugales. Et donc, en frappant à la porte de l'ashram, elles sont accueillies sans condition. Donc, en échange de leur travail, leurs enfants sont pris en charge, leur éducation, leur logement, leur nourriture. Donc voilà, c'est...
Jusqu'à quel âge, en fait, potentiellement ?
Eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ça fait 30 ans, et en fait, les premiers enfants qui étaient accueillis donc, au tout début dans ces ashrams sont adultes aujourd'hui, et donc sont les enseignants des enfants qui sont actuellement accueillis. Donc, en fait, y a, comme l'ashram prend en charge toute la scolarité des enfants, jusqu'à quasiment l'université, jusqu'au, on pourrait dire l'équivalent du bac chez nous, jusqu'à la fin du lycée, en fait, ce qui est proposé aux enfants, ce qu'ils veulent, c'est de rendre, entre guillemets, ce qu'ils ont reçu en donnant 1 an ou 3 ans, pour ceux qui sont d'accord, d'enseignement pour les plus jeunes. Mmh. Il y a vraiment, je trouve que c'est intéressant, la notion de contribution et de service à la communauté est très très forte là-bas. Et c'était vraiment beau de sentir ça. En fait, le « nous » s'efface devant le « je ».
De toute façon, ce n'est pas tellement étonnant dans la mesure où j'imagine qu'au Népal, il n'y a pas de système social comme chez nous, par exemple. Mmh. Donc, il faut bien qu'il y ait des initiatives comme ça pour s'occuper des gens très pauvres ou des enfants maltraités, comme vous dites. C'est ça. Mmh. Et donc, ça a 30 ans, donc c'est finalement relativement récent, on va dire, et en même temps, ça, c'est un endroit qui a bien prouvé sa vitalité. Et donc, vous nous évoquez un peu l'éducation intégrale. On va juste écouter un petit extrait et vous allez nous dire donc c'est Gayatri Mantra, vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors évidemment, on n'a pas l'image. Enfin, vous m'avez envoyé un film aussi. Mmh. Et là, ça se passe le soir, c'est ça
oui.
aussi
mmh. C'est un exemple sonore d'une des activités, entre guillemets, qu'ils ont régulièrement dans leur quotidien, dans leur semaine, et auxquelles on a participé de nombreuses fois, parce que c'est vraiment une belle manière d'être intégré, tout simplement. Donc voilà, là, ils chantent tout ce qu'on... Enfin voilà, donc ils font tous des instruments. Donc on entendait un petit peu les percussions, les
petites cymbales,
voilà. Mmh. Donc c'est une soirée chant, en fait kirtan pour c'est dit aussi dans certains milieux. Donc le Gayatri Mantra c'est un mantra, donc comme son nom l'indique, qui est assez connu en fait, dans les milieux spirituels, qui est vraiment repris souvent. Et le but, c'est tout simplement de se relier à, on pourrait dire, à l'esprit, au soleil, plus grand que soi.
On pourrait dire une prière.
Oui, complètement. C'est l'équivalent. Oui, tout à fait.
Et bon, c'est quelque chose qui apaise aussi la personne qui la formule, qui l'a dit, j'imagine. Quoi. Et ça se pratique en collectif toujours ou ça peut se pratiquer tout seul, un mantra ?
Ah, ça peut se pratiquer tout seul en mantra, mais là, ce qui est intéressant, c'est que donc effectivement, c'est repris, c'est répété, et effectivement, ça nous met dans un certain état.
Mais... Une sorte de transe, peut-être, quoi.
Oui, transe, c'est beaucoup dire, mais effectivement, en tout cas, il y a un effet presque qui se coule, on pourrait. Enfin, quand même, qui est réel. Mais ce que j'ai trouvé fort, en fait, dans ces moments-là, c'est qu'en fait, chaque enfant, enfin, celui qui veut, celui qui a envie, il lance un mantra, donc il est tout seul, et en fait, les autres reprennent. Donc il y a vraiment un jeu, un peu comme dans la tradition bretonne, comment on appelle ça, les chants...
Les guers,
qui se répondent, et bien il y a un petit peu ça. Et moi,
ça doit être universel, ça, lui-même.
Oui, mais complètement. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment scotché là-bas, c'est la confiance et la présence en fait, de ces enfants qui, très jeunes, en fait, prennent la parole devant tout le monde, et vraiment avec une... Ouais, vraiment, moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée.
Oui, c'est ça, mais dans la dimension, vous dites éducation intégrale, c'est le terme qu'ils emploient, eux, éducation intégrale, d'accord.
Oui, parce que c'est issu des recherches, des enseignements de Sri Aurobindo, qui a posé ce mot, où il dit aussi une phrase assez connue en anglais et qui, je pense, résume pas mal leur philosophie, c'est « All life is yoga ». Tout dans la vie est yoga, en fait. Et d'accord. Prétexte. Alors, pas yoga. Nous, c'est vrai qu'en Occident, yoga, on pense à des postures,
oui,
à
c'est
des
ça,
pratiques.
Bien sûr. Oui, mais ça fait, s'arrête à ça, hein,
voilà.
Souvent.
Mmh. C'est plus vaste que ça. C'est qu'en fait, toute activité, toute relation, tout geste, en fait, peut être une occasion de reliance à plus grand et peut être aussi une occasion de faire le bien, de faire le beau. Enfin, c'est plus ce sens-là, en fait. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup parlé.
Oui, bah de toute façon, le yoga, c'est une philosophie. Et, et donc, alors, il y a une éducation de fait, puisque c'est un collectif à la socialisation, enfin, vous l'avez dit. Mm. Et alors, sinon, la journée de ces enfants, ça ressemble à quoi? Vous disiez, l'ashram produit sa propre alimentation. Enfin, il y a une autarcie ou...
Alors, autarcie, non, parce qu'ils sont nombreux. Ils étaient une centaine d'enfants accueillis à Katmandou, une cinquantaine d'adultes, donc tous les jours. Voilà, donc les repas sont préparés presque minute chaque jour. Chaque matin, on participe aux pluches, on fait les chapatis. Enfin, voilà,
quoi, les chapatis? Alors, les chapatis, crêpes.
C'est tout à fait, c'est les crêpes locales. Et d'ailleurs, j'ai, comme par hasard, le sentier de la crêpe m'a suivi jusque là-bas, puisque j'ai été décernée, j'ai eu le titre de Miss Chapatis, puisque je me suis retrouvée à faire les chapatis régulièrement chaque matin. Et c'était un peu comme une méditation pour moi, mais en tout cas, c'était intéressant de. Je trouve que la cuisine, c'est toujours un poste stratégique.
Je suis d'accord, tout à fait.
Où on peut observer plein de choses. Et ce qui n'était pas évident, en plus, ça, pour nous, ça pouvait me permettre d'être l'intermédiaire pour faire des demandes pour les estomacs occidentaux qui avaient vraiment beaucoup de mal à s'adapter au riz, aux pommes de terre, aux lentilles, chapati, trois fois par jour. Voilà, pour eux, c'était un petit peu compliqué au bout d'un moment, mais je crois que c'est régulier pour ceux qui vont au Népal, ça fait partie de... C'est leur plat de base, en fait, qui est très consistant. Mais nous, on n'a pas des estomacs népalais et on n'avait surtout pas l'activité des enfants quotidienne, effectivement, qui était très physique.
Oui. Mm. Et donc, il y a une sorte de ferme. Enfin, vous disiez, il y a 40 vaches et ça. Donc, les enfants, évidemment, sont mis à contribution. Nous, ça peut paraître de l'extérieur un peu dur, mais ils se lèvent à 5 heures du mat pour aller traire les vaches, quoi.
Oui, et c'est ce que j'ai vu. C'est ce qu'on a vu dans, effectivement, un des ashrams qui était à peu près 70 km de Katmandou, plus dans la jungle. Donc, c'était vraiment un autre environnement. Donc, là-bas, c'était très, très vert. Donc, pareil, beaucoup d'espace avec des plantations de bananiers, de fruitiers, la culture du riz et, effectivement, une quarantaine de vaches. Puisque, en fait, le lait là-bas, donc ils récoltent quasiment 200 litres de lait par jour, ce qui n'est pas énorme, je crois.
Ils ne sont pas autosuffisants non plus en lait?
Non, Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils transforment beaucoup de choses. C'est-à-dire que, par exemple, pour le lait, ils vont en faire du beurre, d'une sorte de beurre clarifié. Ils vont en faire du yaourt et ils vont en faire du fromage, le paneer, qui est très présent dans la cuisine indienne. Et en fait, ils le vendent au marché. Ils vont le vendre au marché bio parce que ils font de la permaculture en fait. Par exemple, la bouse de vache, elle est utilisée pour faire du compost.
Oui. Avec tout. Bah, ça serait dommage de s'en priver.
Eh bien oui. Donc il y a vraiment une réflexion qui était très intéressante aussi et vraiment pensée et je trouve très écologique. Enfin voilà, d'un bout à l'autre de la chaîne quoi. Mm-hmm. Vraiment avec une bonne partie de la transformation qui est faite sur place. Les farines qu'on utilise pour faire les chapatis du jour, par exemple, c'est transformé sur place quoi.
Donc les enfants participent à ces tâches-là et aussi, bon, ils ont un enseignement, voilà, une scolaire, enfin, je sais pas, j'imagine qu'est-ce qu'ils apprennent. Ah, encore, c'est pas de l'enseignement spirituel.
Alors, ils avaient des cours de social, ce qu'ils appellent social. Ils avaient des cours de népalais, de langue, des cours de musique. Maths, alors j'allais dire français, mais non, c'est népalais. Et en fait, nous, on est intervenus à un moment donné aussi avec, avec des collègues pour leur, leur proposer une méthode différente pour apprendre leurs cours et prendre des notes, et qui passait par le dessin. Donc, ce qui s'appelle le mind mapping et le sketch noting. Et donc, c'est, en fait, c'était vraiment...
Oui, les cartes mentales, quoi. Enfin, oui. Voilà. Et par contre, le sketch noting, je ne vois pas ce que c'est.
C'est une manière de prendre des notes, mais en faisant des petits dessins, de résumer sa pensée de manière illustrée.
Très bien. Oui, là, c'est la facilitation graphique, peut-être.
Tout
alors.
À fait, c'est ça.
D'accord.
Oui.
Et ça, c'est très intéressant. Et ça, ils ne pratiquaient pas, parce que j'ai l'impression qu'ils pratiquent aussi les arts graphiques, beaucoup, non?
Alors, les arts graphiques, oui, ils font des mandalas régulièrement, mais c'est plutôt pendant des fêtes.
Ah,
donc
d'accord.
c'est dans leur quotidien, mais c'est quand même pas tous les jours. Et c'est vraiment associé à des périodes de festivals, en fait, où là, ils font effectivement des mandalas géants. Et pour moi, c'est vraiment c'est un niveau d'art assez impressionnant, en fait, aussi bien au niveau des couleurs que de la symbolique, que de la qualité du dessin eux-mêmes, en fait. Mais ça, on trouve partout au Népal. On a vécu justement, c'était aussi pour ça le choix de la fin d'année, c'est qu'au mois d'octobre, c'est un mois de grandes fêtes au Népal, avec vraiment les fêtes traditionnelles les plus importantes de l'année. Donc en fait, on a eu l'occasion de participer et de vivre, de s'immerger dans ces fêtes-là. Donc ça, c'était aussi très très précieux. Et je pense que on peut aborder ça lors d'un voyage touristique, mais pas de cette manière-là. Donc ça, c'était aussi pour un choix.
Bon, vous nous avez donné envie d'y aller, voilà. Anaïk Louboutin, merci. On doit s'arrêter là, malheureusement, mais on veut bien continuer à voyager avec vous prochainement. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour vos questions.
Au revoir.
Au revoir.
Et c'est la fin de cette émission qu'on pourra bien sûr réécouter sur le site internet de Transistor.